Portrait de femme de notre matrimoine, réalisé par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Jacqueline, bonjour.
Bonjour Odile, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous restons en France au XXe siècle, puisque nous faisons le portrait d'une femme qui, en littérature française, est aussi célèbre que Jeanne d'Arc en histoire de France. Colette, grande écrivaine du XXe siècle, dont on célèbre cette année 2023 le 150e anniversaire de la naissance. Elle est née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisé, en Bourgogne, dans le département de l'Yonne. Colette, ce n'est pas son prénom, mais son patronyme, le nom de son père. Elle s'appelle Sidonie Gabrielle Colette, Gabri ou Ménéchéri pour sa mère, Belgazou pour son père, une enfant très aimée entre des parents pas riches et qui vivait à la campagne parmi les arbres et les fleurs, c'est elle qui le dit. C'est plus tard son premier mari, Henri Gauthier-Villars, qui fait de ce patronyme son nom de plume. Elle a une demi-sœur et un demi-frère aîné, Juliette, ma sœur aux longs cheveux, dit-elle, et Achille, et un frère, Léopold, dit Léo. Les premières années de sa vie est une époque bénie où sa mère lui fait découvrir l'amour de la nature et des bêtes. La vie s'écoule entre la maison, le jardin, l'école communale qui l'amènera jusqu'au brevet élémentaire, école qu'elle quitte à 16 ans, et ses lectures, non pas la littérature enfantine, mais les auteurs classiques tels Balzac, par exemple. Toute sa vie, elle aura la nostalgie de cette période. Elle a essayé, par l'écriture, de retrouver ce paradis perdu. Elle regrette la liberté et la force de son enfance, à jamais enfuie, à ne devenir qu'une femme. Je la cite. « Vous n'imaginez pas quelle reine de la terre j'étais à 12 ans. Solide, la voix rude, deux tresses trop serrées qui sifflaient autour de moi comme des mèches de fouet. » Les mains roussies, griffées, marquées de cicatrices, un front carré de garçon que je cache à présent jusqu'aux sourcils. Ah, que vous m'auriez aimé à cet âge et comme je me regrette. Et aussi, mais ce que j'ai perdu, c'est mon orgueil, la certitude d'être une enfant précieuse, de sentir en moi une âme extraordinaire d'homme intelligent, une âme à faire éclater mon petit corps. Hélas, j'ai perdu presque tout cela, à ne devenir, après tout, qu'une femme. Qui est venue pour me couper maîtresse de Cybèle ? Cybèle, c'est une déesse phrygienne personnifiant la force reproductrice de la nature. Elle épouse, à 20 ans, le fils d'un ami de son père, Henri Gauthier-Villars, dit Willy, journaliste, critique musical, intégré dans la vie mondaine parisienne. Le choc violent entre l'état de fille et l'état de femme, entre la vie à la campagne et la vie de Paris, aux côtés d'un homme de près de 35 ans qui la trompe et l'humilie, provoque en elle une très longue maladie. C'est comme ça qu'elle la nomme. En fait, une dépression nerveuse si grave que le médecin alerte sa mère, Sido, qui vient la soigner. La décision de vivre l'emporte sur celle de mourir. Willy l'incite alors à écrire ses souvenirs d'écolière. C'est ainsi que naît le personnage de Claudine, dont les aventures se succèdent chaque année, de Claudine à l'école, à Claudine s'en va, et le dernier, la retraite sentimentale. Willy lui vole sa production en signant ses livres. Elle laisse faire, elle est sous son emprise, elle est asservie. Mais c'est un immense succès qui s'accompagne de produits dérivés, tels le célèbre col Claudine, petit col rond, blanc, ras du cou, et des cartes postales, etc. En 1905, à plus de 30 ans, Colette s'émancipe et quitte Willy, prend des leçons de pantomime, figurant des sphinx, des faunes, des égyptiennes du temps des pharaons. Les photos de l'époque nous montrent une jeune femme triste qui ne sourit jamais. Elle rencontre la marquise de Belbeuf, dite Missy, qui s'habille en homme et, avec elle, joue des scènes amoureuses provoquant le scandale. Elle se produit dans toute la France, en Belgique, Italie, Tunisie. Missy et elle eurent une relation suivie jusqu'en 1911. Elle divorce enfin de Willy en 1910, mais ce n'est qu'en 1923, soit 18 ans après, qu'elle signera ses œuvres de son seul nom, Colette. Elle a signé un livre « Dialogue de bête » en 1904 de Colette Willy. Pour gagner sa vie, elle devient ensuite journaliste au journal Le Matin. Reporter, elle témoigne sur la Première Guerre mondiale, parcourant la Meuse et l'Argonne, couvre des procès criminels, celui de Landru, celui de Violette Nozière. Elle assure même des gardes de nuit auprès des blessés et en 1915, elle se rend à Verdun pour retrouver son deuxième mari, Henri de Jouvenel, qu'elle a épousé en 1912 et dont elle aura une fille en 1913. Ses articles brillants séduisent Marcel Proust, notamment. Ils ont en commun des thèmes tels que l'amour, la guerre des sexes, la guerre, la jalousie. En 1912, elle perd sa mère, bien-aimée, Sido, qui deviendra le personnage central de son œuvre. En 1923 paraît « Le blé en herbe », premier ouvrage signé Colette Toucourt. Elle divorcera de Jouvenel en 1925 et c'est en 1926 qu'elle achète la villa baptisée par elle la Treille Muscate à Saint-Tropez. Là, elle écrit son chef-d'œuvre « La naissance du jour », une autofiction publiée en 1928, où la narratrice, femme enfin délivrée, désentravée et maîtresse d'elle-même, peut dire, je cite, « Abat le mariage qui vous fait dépendre d'un autre et vous amène à mendier ». Elle écrit aussi « Sido » en 1930, où les souvenirs de son enfance lui inspirent les plus belles pages d'une poésie en prose. Alors je cite une des plus belles pages de poésie en prose. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y noie le pied des arbres d'un vert délicieux et apaisant dont mon âme a soif. Viens, toi qui l'ignores, viens que je te dise tout bas. Le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose. Tu jurerais, quand les taillis de ronces y sont en fleurs, qu'un fruit mûri on ne sait où, là-bas, ici, tout près, un fruit insaisissable qu'on aspire en ouvrant les narines. Tu jurerais, quand l'automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés, qu'une pomme trop mûre vient de choir, et tu la cherches, et tu la flaires, ici, là-bas, tout près. Et si tu passais, en juin, entre les prairies fauchées, à l'heure où la lune ruisselle sur les meules rondes qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais, à leur parfum, s'ouvrir ton cœur. Tu fermerais les yeux, avec cette fierté grave dont tu voiles ta volupté, et tu laisserais tomber ta tête avec un muet soupir. En 1935, elle est élue à l'Académie royale de Belgique et la même année se marie avec Maurice Goudetec, qui restera son fidèle compagnon jusqu'à sa mort. En 1945, elle est élue à l'Académie Goncourt qu'elle présidera par la suite. Elle meurt le 3 août 1954, à 81 ans, en pleine gloire. À cause de l'arthrite, elle était devenue impotente et ne sortait plus de son appartement donnant sur les jardins du Palais Royal à Paris, où elle recevait couchée ses amis écrivains et poètes, tels Jean Cocteau par exemple. Ses funérailles nationales, suivies par une foule compacte, sont célébrées dans la cour d'honneur du Palais Royal. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Colette ne se disait pas féministe au sens que donnaient à ce mot les femmes qui, à son époque, réclamaient le droit de voter, les suffragistes telles Hubertine Auclert et Séverine, par exemple. Colette les détestait et a même dit d'elle, je cite, « Elle mérite le fouet et le harem ». Elle tient moins à obtenir l'égalité des droits qu'à s'affranchir des conventions, des codes si contraignants pour les femmes et à obtenir son libre arbitre, son indépendance, sans entrave. Mais s'il s'agit d'imposer une parole de femme autre que celle des hommes, d'attaquer le pouvoir masculin dans ce qu'il a de morbide et de conquérant, de mener un combat individuel pour sa propre autonomie, alors on peut dire que Colette est féministe. Son parcours, qui illustre son œuvre d'autofiction, montre bien la lutte qu'elle a menée toute la première partie de sa vie pour se libérer, et elle a gagné. L'œuvre de Colette n'a jamais eu de préoccupations idéologiques, mais à sa manière, elle a joué un rôle de premier plan dans le combat des femmes. Elle fut la première à décrire l'horreur des avortements clandestins, la violence conjugale, à saluer le courage des femmes pendant la Première Guerre mondiale, à renverser les stéréotypes du masculin et du féminin, à faire de l'homme l'objet et non plus le sujet du désir. Sans aucun doute, elle est évidemment une femme exceptionnelle de notre matrimoine. Alors je vais peut-être citer quelques-unes de ses œuvres, pas toutes, parce qu'il y a 60 volumes, 2000 articles de presse, une correspondante abondante, donc je vais simplement citer les plus connues, les Claudines bien entendu, Dialogue de bête, Les vrilles de la vigne, Le blé en herbe, Sido, Chérie, La fin de Chérie, Mes apprentissages, La naissance du jour, Le fanal bleu et le dernier Gigi qui est aussi une pièce de théâtre. Et ses œuvres ont souvent été portées au cinéma. Est-ce qu'il y a des noms de rue ? Je ne connais que la place Colette à Paris. La place Colette nommée en 1966. Et à Saint-Sauveur-en-Puisé, on peut visiter le très beau musée qui lui est consacré et aussi sa maison natale qui a été restaurée à l'identique par la Société des Amis de Colette. Les sources, Colette, Libre et entravée, une biographie de Michel Sardes, édition Stock 1978, Colette de Germaine Beaumont, édition du Seuil 1951, Colette et les siennes de Dominique Bonnat, édition Grasset 2017, et le hors-série Le Monde, paru récemment en janvier 2023, Une vie, une œuvre, Colette, le tourbillon de la vie.
Merci Jacqueline et une bonne journée à la semaine prochaine.
Merci, à mardi prochain.
Au revoir.
Au revoir.